2. Dans un des coins de la réserve du Cochon du Sud, Jake aperçut une porte. Derrière apparaissait un escalier pavé qui descendait vers Dieu savait quelle profondeur. Il était éclairé par des ampoules basse tension, protégées par des appliques en verre trouble, constellées de mouches. Othé se mit à dévaler les marches sans hésitation, sautillant avec une régularité comique, synchronisant train avant et train arrière en une sorte de petit bondissement. Il gardait la truffe collée aux marches, et Jake savait qu'il était sur la piste de Susanna. Il le percevait dans l'esprit de son petit ami sur pattes. Jake tenta de compter les marches, réussit à aller jusqu'à 120, puis perdit prise sur les nombres. Il se demanda s'il se trouvait toujours à New York ou en dessous. À un moment, il crut entendre un grondement lointain et familier, et décida que si c'était un métro, alors ils étaient toujours dans le coin. Ils finirent par atteindre le pied des escaliers. Ils débouchèrent dans un gigantesque vestibule voûté qui rappelait un hall de grand hôtel, mais sans l'hôtel autour. Othé le traversa, Truffe toujours au sol, remuant sa petite queue en tortillon. Jake dut courir pour le rattraper. À présent que le sac était moins plein, les Rizza étaient ballottés d'avant en arrière avec un bruit métallique. Tout au bout de la salle voûtée, Jake aperçut un kiosque avec un écriteau sur la vitrine poussiéreuse qui disait « Souvenir de New York, dernière chance ». Et sur un autre, visite du 11 septembre 2001, encore quelques tickets disponibles pour cet événement inoubliable. Accès interdit aux asthmatiques sans autorisation médicale. Jake se demanda ce que pouvait bien avoir d'aussi fabuleux le 11 septembre 2001 et se dit que, finalement, il n'avait peut-être pas très envie de le savoir. Tout à coup, il entendit tonner dans sa tête aussi clairement que si on lui criait dans les oreilles
« Hé, hé, Madame Positronix, toujours là ?»
Jake n'avait aucune idée de qui était cette Madame Positronix, mais il reconnut distinctement la voix qui posait cette question.
« Susanna !»
s'écria-t-il en s'arrêtant net devant le kiosque. Sur son visage, un sourire de surprise et de joie lui donnait de nouveau l'air d'un enfant.
« Suze, tu es là ?»
Il entendit un cri de joie en réponse. Prenant conscience de ce que Jake ne le suivait plus de près, Othé se retourna et lâcha un
« Hack, hack !»
d'impatience. Mais pour l'instant, Jake était trop absorbé pour se préoccuper de lui.
« Je t'entends »
hurla-t-il.
« Enfin, bon Dieu, mais à qui tu parlais ? Continue à hurler, que je puisse venir dans ton esp... »
De derrière lui, peut-être du haut de ce long escalier, peut-être déjà plus bas, quelqu'un s'écria « C'est lui !» Il y eut des coups de feu, mais Jake les entendit à peine. Avec un sentiment d'horreur indescriptible, il constata que quelque chose avait rampé à l'intérieur de son crâne, comme une main mentale. Il se dit qu'il s'agissait probablement de l'ignoble qui lui avait parlé à travers la porte. La main de l'ignoble avait dû dénicher des interrupteurs dans une sorte de dogane de Jake Chambers, et il était en train de jouer avec, en train d'essayer
de me plaquer au sol, là, de m'enfoncer les pieds dans le sol,
de l'arrêter. Et cette voix était entrée en lui parce que, pendant qu'il envoyait ou recevait des messages, il était ouvert.
Jake ? Jake, où es-tu ?
Il n'avait pas le temps de lui répondre. Autrefois, en essayant d'ouvrir la porte dérobée de la grotte des voix, Jake avait convoqué la vision d'un million de portes s'ouvrant à la volée. Cette fois-ci, il en visionna une seule en train de se refermer violemment dans un gigantesque boom du tonnerre de Dieu. Et juste à temps avec ça. L'espace d'une seconde, ses pieds restèrent fichés dans le sol poussiéreux, puis quelque chose poussa un cri de douleur et se retira de lui, le libéra. Jake se remit en mouvement, d'abord de manière saccadée, puis reprenant de la vitesse. Bon Dieu, il était moins une. Très loin, il entendit Susanna prononcer son nom, mais il n'osa pas se précipiter en avant et s'ouvrir pour répondre. Il lui restait seulement à espérer qu'Otté s'accrocherait à sa piste et qu'elle continuerait d'émettre. 3. Il se dit ensuite qu'il aurait dû se mettre à chanter la chanson de la radio de Madame Shaw juste après le dernier appel de Susanna. Mais il n'y avait aucun moyen d'être vraiment certain. Autant essayer de repérer la seconde précise où commence la migraine, ou le moment où on est en train d'attraper un rhume. Ce dont Jack était certain, c'était d'avoir entendu d'autres coups de feu, et même le bourdonnement strident d'un ricochet, mais tout ça se trouvait loin derrière. Et bientôt il ne prit plus la peine de se baisser pour esquiver ou de regarder en arrière. De plus, Otté filait maintenant à un bon rythme, secouant pour de bon ses petites fesses poilues. Des machines enterrées cognaient sourdement et sifflaient bruyamment. Des rails d'acier affleuraient sur le sol du passage, et Jack en vint à penser qu'il y avait eu autrefois une ligne de tram ou un engin de ce genre. À intervalles réguliers, des communiqués officiels. « Patricia en tête, Fédic, avez-vous votre passe bleue ?» étaient imprimés sur les murs. À certains endroits, des carreaux étaient tombés. À d'autres, des rails avaient disparu et de temps à autre, une flaque d'eau stagnante, ancienne et grouillant de vermine, remplissait ce qui ressemblait à s'y méprendre à un nid de poule. Jack et Otté passèrent devant deux ou trois véhicules, évoquant un croisement entre une voiturette de golf et un wagon plat. Ils rencontrèrent également un robot à tête de navet, dont les yeux rouges électriques clignotèrent faiblement tandis qu'il éructait un croassement rauque qui avait peut-être été halte. Jack brandit l'un des Oriza, sans savoir si ce serait de la moindre utilité contre une machine comme celle-là, si elle s'en prenait à lui. Mais le robot ne bougea pas. L'ultime clignotement des diodes fatiguées de ses yeux semblait avoir épuisé le peu d'énergie restant dans ses batteries. Ses cellules énergétiques ou son jeton atomique ou quoi que ce soit qui lui servait de carburant. De loin en loin surgissait un graffiti. Deux d'entre eux lui étaient familiers. Le premier disait « Vive le roi cramoisi !» avec l'œil rouge en guise de poing au-dessus de chaque « i ». Le second était signé « Bango Skank, 84 ».«
Bon sang !» se dit Jack distraitement. « Ce Bango, il a vu du pays ?» Puis il s'entendit pour la première fois chanter à voix basse.
Pas vraiment des mots, rien qu'un très vieux refrain presque oublié, tiré d'une de ces chansons que Madame Shaw écoutait à la radio dans la cuisine. « Awimbawe, Awimbawe !» Awimbawe. Il s'interrompit net, hérissé par ce marmonnement scandé, presque une incantation, un talisman. Il ordonna à Otté de s'arrêter.
« Faut que je fasse la vidange, mon petit pote. » « Otté ?»
Les oreilles dressées et la fin du message vibrant dans ses yeux brillants.
« Ne sois pas trop long. »
Jake fit gicler l'urine sur l'un des murs carrelés. De la mousse verdâtre suintait entre les carreaux. Il chercha à discerner des bruits de poursuite et ne fut pas déçu. Combien en restait-il? Et quel genre de bestiole? Roland l'aurait sans doute su, lui, mais Jack n'en avait aucune idée. À en croire les échos, on aurait dit un régiment. Tandis qu'il secouait les dernières gouttes, Jack Chambers prit soudain conscience que jamais plus le père ne ferait ça. Que jamais plus il ne lui adresserait son large sourire en pointant le doigt vers lui, que jamais plus il ne se signerait avant le repas. Il l'avait tué. Ils avaient pris sa vie. Il lui avait volé son souffle et arrêté les battements de son cœur. À part peut-être de celle de ses rêves, le père avait à présent disparu de l'histoire. Jake se mit à pleurer. Tout comme son sourire, ses larmes lui redonnèrent soudain l'air d'un enfant. Otté s'était retourné, trépignant de se remettre en chasse, mais regardé par-dessus son épaule avec un air indéniablement inquiet.
« Ça va, »
lui assura Jack en reboutonnant sa braguette et en s'essuyant les joues du poignet. sauf que ça n'allait pas. Il n'était pas seulement triste ou en colère ou effrayé de savoir les ignobles à ses trousses. À présent que la poussée d'adrénaline était quelque peu redescendue, il se rendit compte qu'il était aussi affamé que triste. Et fatigué aussi.
Fatigué?
Au bord de l'épuisement, oui. Il ne se rappelait pas la dernière fois qu'il avait dormi. Il s'était fait aspirer par la porte en direction de New York. Ça, il se le rappelait bien. Et Oté, qui avait failli se faire renverser par un taxi, et ce révérend de la bombe divine, avec un nom qui lui faisait penser à Jimmy Kanye jouant George M. Cohan dans ce vieux film en noir et blanc qu'il avait vu à la télé quand il était petit, dans sa chambre. Parce que ça lui revenait maintenant. Il y avait une chanson dans ce film, à propos d'un type qui s'appelait Harrigan. H-A-2-R-I. Harrigan, c'est moi. Il se rappelait ces trucs-là, mais pas la dernière fois qu'il avait avalé un repas digne de « Hack !» aboya Oté aussi implacable que le destin. Si les bafouilleux avaient un point de rupture, se dit Jake avec lassitude, Oté en était encore loin.
« Hack ! Hack ! Ouais, ouais !»
fit-il en s'écartant du mur en poussant sur la main.
Hacke va filer comme le vent. Vas-y, trouve Susanna.
Il aurait voulu traîner la patte, mais traîner la patte ne les aurait vraisemblablement pas avancés à grand-chose. Même marcher, simplement, n'aurait pas suffi. Il fit subir le martyre à ses jambes et se mit à trottiner, se remettant malgré lui à chantonner à voix basse, cette fois en retrouvant les bonnes paroles. Dans la jungle, terrible jungle, le lion dort ce soir. Dans la jungle, paisible jungle, le lion dort ce soir. Oh ! Et il repartit d'un « Wimbawe, Wimbawe, Wimbawe » qui n'avait aucun sens, sorti du transistor de la cuisine, toujours branché sur les vieux tubes, sur WCBS. Mais est-ce que des bribes décousues de vieux films ne venaient pas s'enrouler autour de ses souvenirs de cette chanson en particulier? Pas une chanson tirée de Yankee Doodle Dandy, mais d'un autre film, avec des monstres effrayants, qu'il aurait vu quand il était encore tout petit, à peine sorti de ses... langes? Couches? Près du village, joli village, le lion dort ce soir. Près du village, paisible village, le lion dort ce soir. Ouh, Awimbawe, Awimbawe. Il s'interrompit le souffle court, se frottant le flanc. Il avait un point de côté, rien de bien grave, du moins pas encore assez douloureux pour l'arrêter. Mais cette matière visqueuse... visqueuse et verdâtre, suintant entre les carreaux, suintant à travers l'ancien enduit, entre les carreaux de céramique foutus, parce qu'on était dans la jungle, très profond sous la ville, aussi profond que dans les catacombes, Wimbawe, ou que...
Oté !
S'exclama-t-il à travers ses lèvres gercées. Bon Dieu, il avait tellement soif.
Oté ! Ce n'est pas n'importe quelle matière visqueuse, c'est de l'herbe, ou des herbes, ou...
Oté aboya le nom de son ami, mais Jack le remarqua à peine. L'écho de leur poursuivant leur parvenait toujours. Ils s'étaient même un peu rapprochés, mais dans l'immédiat, il choisit de les ignorer, eux aussi. De l'herbe, poussant à travers le mur carrelé, débordant du mur. Il baissa les yeux et vit encore de l'herbe, un vert éclatant aux reflets presque mauves sous les lumières fluorescentes, poussant du sol. Et des éclats de carrelage brisés, réduits en tessons et en fragments, comme des reliques des grands anciens, ses ancêtres qui avaient vécu et bâti des édifices, avant que les rayons se brisent et que tout le monde commence à changer. Il se baissa. Tendit la main dans l'herbe, en rapporta des éclats de céramique, oui, mais aussi de la terre. La terre de... la jungle? Quelques catacombes enfouies, ou de quelques tombeaux, ou peut-être... Il avait aussi ramené un scarabée qui courait dans la terre, un scarabée avec une marque rouge sur le dos, comme un sourire sanglant. Et Jake le jeta par terre avec un petit cri de dégoût. La marque du roi. Vrai. Il revint à lui et se rendit compte qu'il avait mis un genou à terre, en pleine fouille archéologique, comme le héros dans un vieux film alors que la meute se rapproche. Et Othé le fixait, les yeux brillants d'angoisse.
« Hack ! Hack ! Hack ! Ouais !»
fit-il en se hissant sur ses pieds. « J'arrive ! Mais Othé, qu'est-ce que c'est que cet endroit ?» Othé ne pouvait savoir pourquoi l'anxiété pointait dans la voix de son cadine. Mais ce qu'il voyait n'avait pas changé, et ce qu'il sentait n'avait pas changé. C'était son odeur à elle, celle que le garçon lui avait demandé de trouver et de suivre, et la piste était plus fraîche à présent. Il se précipita dans son sillage éclatant. 4. 5 minutes plus tard, Jake s'arrêta de nouveau et s'écria « Othé, attends une minute !» Son point de côté était revenu en plus violent, mais ce n'était pourtant pas ce qui l'avait arrêté. Tout avait changé, ou était en train de changer, et Dieu lui vienne en aide, il croyait savoir en quoi. Au-dessus de lui, les lumières fluorescentes brillaient toujours, mais les murs carrelés se hérissaient de verdure. L'air était devenu moite et humide, détrempant sa chemise qui lui collait à la peau. Un beau papillon orange, d'une taille impressionnante, volta devant ses yeux écarquillés. Jake essaya de l'attraper d'un geste vif, mais l'insecte lui échappa sans mal. Presque joyeusement, lui sembla-t-il. Le couloir carrelé était devenu un sentier de jungle. Devant eux, ils montaient en pente douce jusqu'à une percée dans la végétation luxuriante, sans doute une sorte de clairière. Au-delà, Jake apercevait de grands arbres anciens surgissant dans la brume, leurs troncs tapissés de mousse, leurs branches enroulées de plantes grimpantes. Il vit aussi des fougères géantes, et à travers la dentelle de verdure, un ciel brûlant de jungle. Il savait qu'il se trouvait en dessous de New York. C'était forcément New York, mais il entendit un cri, rappelant celui d'un singe. Si proche qu'il sursauta et leva les yeux, certain qu'il verrait l'animal juste au-dessus de sa tête, lui adressant un rictus gigantesque derrière une rampe de projecteur. Et soudain, lui glaçant les sangs, monta le rugissement féroce d'un lion. D'un lion qui, de toute évidence, ne dormait pas. Il était sur le point de battre en retraite et à bride abattue quand il comprit subitement qu'il ne le pouvait pas, parce qu'il se retrouverait nez à nez avec les ignobles, sans doute menés par celui qui lui avait appris que le paternel avait fini en plat de résistance. Et Othé levait vers lui ses yeux scintillants d'impatience, n'attendant que de pouvoir repartir. Othé n'était pas une andouille, pourtant il ne montrait aucun signe d'alerte, en tout cas, pas concernant ce qui les attendait plus avant. Pour sa part, le bafouilleux ne pouvait toujours pas comprendre quel était le problème. Il savait que le garçon était fatigué, il le sentait, mais il savait aussi que Hake avait peur. De quoi ? Il y avait en effet des odeurs déplaisantes dans cet endroit, et parmi elles, l'odeur de beaucoup d'hommes, mais pas de danger immédiat. Et puis surtout, il y avait son odeur à elle, sa piste à elle, très fraîche à présent, presque là.
« Hack !»
jappa-t-il de nouveau. Jake avait retrouvé son souffle.
« D'accord !»
fit-il en regardant autour de lui.
« Ok, mais doucement. »« Ment !»
dit Othé. Mais même Jake put déceler la désapprobation criante qui pointait dans la voix du bafouilleux. Jake ne se décida à bouger que parce qu'il n'avait pas le choix. Il se mit à gravir la pente, à suivre la piste de verdure. Pour Othé, la voie était parfaitement libre, et ce depuis qu'ils avaient débouché des escaliers, vers la trouée bordée de lierre et de fougères, vers le cri du singe dément et le rugissement à vous pétrifier les testicules du lion en chasse. La chanson dansait une ronde infernale autour de son esprit. Dans le village, dans la jungle. Chut, mon chéri. Ne gigote pas, mon chéri. Et à présent, il en avait trouvé le titre et même le nom du groupe. C'était les Tokens, avec leur chanson « Le lion dort ce soir » qui est sortie du top 50, mais pas de nos cœurs, qui la chantait. Mais qu'est-ce que c'était que ce film? Comment s'appelait ce foutu film? Jake atteignit le sommet de la montée et l'orée de la clairière. Il glissa un œil dans l'entrelac de larges feuilles vertes et de fleurs mauves éclatantes. Un minuscule ver tortillait son corps vert au cœur de l'une d'elles. Et tandis qu'il observait, le titre du film lui revint. Et la chair de poule lui recouvrit instantanément tout le corps, de la tête aux pieds. Une seconde plus tard, le premier dinosaure surgit de la jungle, terrible jungle, et pénétra dans la clairière. 5. Il était une fois, il y a bien longtemps, c'est bon pour sûr, alors qu'il n'était encore qu'un jeune goujat. Il y en a pour toi et pour moi, c'est sûr. Il y a bien longtemps quand mère est allée à Montréal avec son club et que père est allé à Vegas pour l'inauguration des nouvelles émissions de la rentrée de septembre. Confiture était à la mûre. Il y a bien longtemps quand Bama n'avait que 4. 6. Bama, c'est comme ça que la seule bonne personne, Madame Shaw, Madame Greta Shaw, le surnomme. Elle découpe la croûte du pain pour ses sandwichs. Elle affiche ses dessins de maternelle sur le frigo avec des aimants en plastique en forme de fruits. Elle l'appelle Bama et ce nom a quelque chose de spécial pour lui, pour eux. Parce qu'un dimanche après-midi, alors qu'il avait bu, son père lui a appris à chanter « on y va, préparez-vous au combat ». On n'a pas peur, on se cachera pas. C'est nous, la marée rouge, d'Alabama. Et elle l'appelle Bama. C'est un nom secret et eux, ils savent ce que ça veut dire, mais personne d'autre ne le sait. C'est comme avoir une maison dans laquelle on peut entrer. Une maison en sécurité au milieu des bois effrayants, alors que dehors, tout autour, les ombres ressemblent à des monstres, à des ogres et à des tigres. Tigre. Tigre, qui brûle de tous ses feux, lui chante sa mère. C'est comme ça qu'elle voit les berceuses, sinon elle a aussi « J'ai entendu voler une mouche » au moment de ma mort. Ce qui donne à Bama Chambers une chair de poule monstre, même s'il n'ose jamais le lui dire. Parfois, la nuit et aussi pendant la sieste de l'après-midi, il reste allongé dans son lit à se dire « J'entendrai une mouche voler et ce sera la messagère de ma mort. Mon cœur s'arrêtera et ma langue tombera au fond de ma gorge comme une pierre dans un puits. » Et voilà les souvenirs qu'il refoule. C'est bon d'avoir un nom secret. Et quand il découvre que mère va à Montréal au nom de l'art et que père va à Vegas pour participer au lancement de la nouvelle grille des programmes de la chaîne devant les huiles, il supplie sa mère de demander à Madame Greta Shaw de rester avec lui et sa mère finit par céder. Le petit Jackie sait bien que Madame Shaw n'est pas sa mère et Madame Greta Shaw lui a dit plus d'une fois qu'elle n'était pas sa mère.
« J'espère que vous comprenez que je ne suis pas votre mère, Bama, » dit-elle en lui tendant une assiette. Et sur cette assiette, il y a un sandwich au beurre de cacahuète, au bacon et à la banane, avec la croûte découpée comme seule Greta Shaw sait la découper. « Parce que ça ne fait pas partie de mes affectations. »
Et Jackie. Sauf que là, il est Bama entre deux. Il est Bama. Ne sait pas exactement comment lui dire qu'il le sait. Il le sait, mais il fera avec jusqu'à ce qu'il fasse une vraie rencontre ou jusqu'à ce qu'il soit assez grand pour dépasser sa peur de la messagère de la mort. Et Jackie dit «
Ne vous inquiétez pas,
tout va bien. Mais il est quand même content que Madame Shaw soit d'accord pour rester, plutôt que la dernière jeune fille au pair en date, celle qui porte des jupes courtes et qui est toujours en train de jouer avec ses cheveux et son rouge à lèvres, et qui n'en a strictement rien à foutre de lui, et qui ne sait pas que dans le secret de son cœur, il est Bama. Et bon sang, cette petite Daisy May! C'est comme ça que son père appelle toutes les jeunes filles au pair. Ce qu'elle est stupide, stupide, stupide! Madame Shaw n'est pas stupide, elle. Madame Shaw lui prépare un goûter qu'elle appelle parfois le thé de l'après-midi, ou même le haut thé. Et peu importe ce que c'est, du fromage blanc et des fruits, un sandwich sans croûte, du gâteau avec de la crème anglaise, des canapés restants du cocktail de la veille. Elle chante cette même petite chanson en le préparant. Un petit encas, c'est bon pour sûr. Il y en a pour toi et pour moi, c'est sûr. Confiture et thé à la mûre. Il y a une télé dans sa chambre. Et chaque jour, quand ses parents sont partis après l'école, il mange son goûter là. Et il regarde, et regarde, et regarde. Et il entend sa radio dans la cuisine. Toujours des vieux tubes, toujours WCBS. Et parfois il l'entend, elle. Il entend Madame Greta Shaw chanter sur Vanda Jackson ou Lee Dorsey. Et parfois il se raconte que ses parents meurent dans un accident d'avion, et alors elle devient bel et bien sa mère en quelque sorte. Et elle l'appelle « mon pauvre petit gars ». Et pauvre petit môme perdu, et alors, par la grâce de quelque transformation magique, elle ne prend plus seulement soin de lui, mais elle l'aime. Elle l'aime, et l'aime, et l'aime, comme lui, il l'aime. Elle est sa mère, ou peut-être sa femme, il ne fait pas très bien la différence entre les deux. Mais elle l'appelle Bama, et non Trésor, comme sa vraie mère, ou le petit Crack, comme son père. Et il a beau savoir que c'est là une idée idiote. Y penser dans son lit, c'est rigolo. Y penser, ça lui évite de se tordre les boyaux avec la messagère de la mort qui viendra bourdonner au-dessus de son cadavre quand il sera mort, la langue au fond de la gorge comme un caillou dans un puits. L'après-midi, quand il rentre de la maternelle, le temps qu'il sache pourquoi, ça s'appelle maternelle, il aura atteint l'âge de changer d'école. Il regarde Million Dollar Movie dans sa chambre. Dans Million Dollar Movie, il diffuse exactement le même film à la même heure. 4 heures, tous les jours pendant une semaine. La semaine précédente, ses parents sont partis et Madame Greta Shaw est restée couchée au lieu de rentrer chez elle. Oh, quelle extase! Car Madame Greta Shaw renie Discordia. Faites-moi donc un amen. Il y avait de la musique en stéréo tous les jours. Il y avait les vieux tubes dans la cuisine. Sur WCBS, dites « bombe divine » un peu pour voir. Et à la télé, James Cagney se pavane en chapeau melon en chantant Harrigan. H-A-2-R-I. Harrigan, c'est moi. Et aussi la chanson qui dit qu'il est un neveu bien vivant de mon bon vieil oncle Sam. Et puis commence une nouvelle semaine. La semaine où ses parents sont partis. Et un nouveau film. Et la première fois qu'il le voit, il est carrément mort de trouille, les gars. Ce film, il s'appelle « Le peuple des abîmes ». Avec Monsieur César Romero, et quand Jack le reverra, à l'âge avancé de 10 ans, il se demandera comment il a pu avoir peur d'un film aussi crétin que celui-là. Parce que ça parle d'explorateurs qui se perdent dans la jungle, tu vois, et qu'il y a des dinosaures dans la jungle. Et à 4 ans, il ne se rendait pas compte que ces dinosaures, c'était rien d'autre que des putains de dessins animés. Exactement comme Titi et Sylvestre, et Popeye le marin. Ho ho ho, donnez-moi une petite olive. Le premier dinosaure qu'il voit est un tricératops qui surgit de la jungle d'un pas maladroit, et la fille exploratrice, une fabuleuse pépée, comme son père l'aurait sans doute appelée, C'est ce que son père dit toujours de celles que sa mère appelle « les filles d'un certain genre ». Elles hurlent à gorge déployée. Et Jack aussi hurlerait bien s'il le pouvait. Mais sa poitrine est paralysée par la terreur. Oh, voici venir Discordia incarnée. Dans les yeux du monstre, il voit le néant qui signifie la fin de toute chose. Parce que les supplications ne seront d'aucun effet sur un monstre pareil. Il est trop stupide. Tout ce que font les cris, c'est attirer l'attention du monstre, et c'est le cas. Il se tourne vers la Désimée, la fabuleuse Pépé, et dans la cuisine. Terrible cuisine. Il entend les tokens, qui sont sortis du top 50, mais pas de nos cœurs. Ils chantent leur chanson sur la jungle, paisible jungle. Et là, sous les yeux agrandis d'horreur de ce petit garçon, s'étend une jungle qui est tout sauf paisible. Et ce n'est pas un lion, mais une chose énorme qui ressemble à un rhinocéros, mais en plus gros. Et il a un genre de collerette en os autour du cou. Et après vérification, Jake apprendra qu'on appelle ces monstres-là des tricératops. Mais pour l'instant, il n'a pas de nom. Ce qui est encore pire. Sans nom, c'est encore pire. « Wimbawe !» chantent les tokens. « Wimbawe !» Et bien sûr, César Romero abat le monstre juste avant qu'il déchiquette la fille, la fabuleuse Pépé, membre après membre. Et sur le coup, tout va bien. Sauf que cette nuit-là, le monstre revient. Le tricératops revient. Il est dans son placard à lui, parce que, même à 4 ans, il comprend que parfois son placard n'est pas vraiment son placard. Que sa porte peut s'ouvrir sur des endroits différents, où des choses encore pires l'attendent. Il se met à hurler. La nuit, il peut hurler. Et Madame Greta Shaw entre dans sa chambre. Elle s'assied au bord de son lit, le visage fantomatique à cause d'un masque de beauté bleu-gris qu'elle s'est étalé sur la figure, et elle lui demande « Qu'est-ce qui ne va pas, Bama ?» Et il arrive vraiment à le lui dire. Il n'aurait jamais pu le dire à son père ou à sa mère. Déjà pour commencer, il aurait fallu que l'un d'eux soit là. Et bien sûr, ce n'est pas le cas. Mais à Madame Shaw, il peut le raconter. Parce que, bien qu'elle ne soit pas très différente des autres domestiques, les baby-sitters, nounous, filles au père, puéricultrices, elle est un petit peu différente. Assez pour accrocher ses dessins sur le frigo avec les petits aimants. Assez pour que ça change tout. Assez pour maintenir debout la tour de la santé mentale d'un gamin bêta. Dites Alléluia. Dites trouver, pas dérober. Dites Amen. Elle écoute tout ce qu'il a à dire. Elle hoche la tête. Elle lui fait répéter « Tri-sé-ra-tops » jusqu'à ce qu'il le prononce correctement. Ça va mieux en le prononçant correctement. Et alors elle dit « Autrefois, ces choses existaient. Mais elles sont mortes il y a 100 millions d'années, Bama. Peut-être même plus. Maintenant, ne me dérangez plus, parce que moi aussi j'ai besoin de dormir. » Jake regarde le peuple des abîmes dans Million Dollar Movie chaque jour de cette semaine-là. À chaque fois qu'il le regarde, ce film lui fait un peu moins peur. Une fois, Madame Greta Shaw entre et en regarde une partie avec lui. Elle lui apporte son goûter, un grand bol de muesli hawaïen fluff, et elle s'en est pris un aussi. Et elle lui chante sa merveilleuse petite chanson. Un petit anka, c'est bon pour sûr. Il y en a pour toi et pour moi, c'est sûr. Confiture et thé à la mûre. Il n'y a pas de mûre dans l'hawaïen fluff, bien sûr. Et ils ne boivent pas du thé, mais un fond de jus de raisin welsh. Mais Madame Greta Shaw dit que c'est l'intention qui compte. Elle lui a appris à dire « À votre santé, ma bonne dame !» avant de boire. Et à trinquer verre contre verre. Jake trouve que c'est trop cool, qu'il n'y a pas plus classe. Bientôt, les dinosaures débarquent. Bama et Madame Greta Shaw sont assis côte à côte, en train de manger leur bol de muesli, et ils en regardent un gros. Madame Greta Shaw dit que ceux-là, on les appelle les Tyrannosaurus, en train de boulotter le méchant explorateur. Des dinosaures de dessin animé, renifle Madame Greta Shaw. Ils auraient pu faire mieux quand même. Pour Jake, c'est la critique de film la plus brillante qu'il ait entendue de toute sa vie. Brillante et utile. Ses parents finissent par rentrer. Top Hat passe pendant une semaine dans Million Dollar Movie et les terreurs nocturnes du petit Jackie ne sont jamais mentionnées. Il finit par oublier sa peur du Triceratops et du Tyrannosaurus. 7. À présent, allongé dans l'herbe haute et verte, scrutant la clairière brumeuse à travers les feuilles d'une fougère, Jake découvrit qu'il y avait des choses qu'on n'oubliait jamais. « Attention à l'esprison !» avait dit Josh Abim, et en baissant les yeux vers le lourd dinosaure, Triceratops de dessin animé dans une jungle réelle, comme un crapaud imaginaire dans un jardin réel, Jake se rendit compte que c'était ça. C'était l'esprison, le piège mental. Ce Triceratops n'était pas réel, en dépit de ses rugissements féroces. Et même si Jake le sentait bien, la végétation fétide qui pourrissait dans les plis tendres de ses pattes, la mer de séchée collée à son vaste derrière cuirassé et cet interminable chic dégoulinant entre ses gigantesques mâchoires ornées de défense. Et s'il entendait son souffle court, il ne pouvait pas être réel. C'était un dessin animé, bon sang. Pourtant, il le savait assez réel pour pouvoir le tuer. S'il descendait là-bas, le Triceratops de bande dessinée le déchiqueterait aussi facilement qu'il aurait déchiqueté la fabuleuse Pépée. Si César Romero n'était pas apparu juste à temps pour loger une balle dans le point vulnérable avec sa carabine de chasseur de gros gibier. Jake avait réussi à se débarrasser de la main qui avait essayé de lui tripoter les manettes du cerveau. Il avait fait claquer toutes les portes tellement fort qu'il en avait tranché net les doigts de l'intrus. Mais là, c'était autre chose. Il ne pouvait pas se contenter de fermer les yeux et de passer à côté. C'était un vrai monstre qu'avait créé son esprit traître. Un monstre vraiment capable de le mettre en pièces. Il n'y avait aucun César Romero ici pour l'en empêcher. Pas de Roland non plus. Il n'y avait que les ignobles qui lui collaient au train et se rapprochaient à chaque seconde. Et comme pour mettre l'accent sur cette réalité, Ote se retourna en arrière et lâcha un aboiement clair et perçant. Le Triceratops l'entendit et rugit en réponse. Jack s'attendait à ce que Ote se blottisse contre lui en entendant cet écho effroyable, mais Ote garda le regard fixé au-dessus de l'épaule de Jack. C'était des ignobles qu'Ote s'inquiétait. Pas du Triceratops en dessous d'eux ou du Tyrannosaurus qui viendrait derrière ou...
« Parce que Ote ne le voit pas, » se dit-il.
Il joua un peu avec cette idée et ne réussit pas à en venir à bout. Ote ne l'avait pas senti ou entendu non plus. La conclusion était incontournable. Pour Ote, le terrible Triceratops et la jungle en dessous n'existaient tout simplement pas.
Ce qui ne change rien au fait que pour moi, si. Ce piège m'a été tendu à moi, ou à quiconque doté d'une imagination susceptible de passer dans le coin. Encore un gadget des grands anciens, sans aucun doute. Dommage qu'il ne soit pas cassé, comme la plupart de leurs autres trucs, pas de peau. Je vois ce que je vois, et je ne peux rien y faire.
Non, une seconde. Attendez une seconde. Jake ne mesurait absolument pas la qualité de sa connexion mentale avec Ote, mais il se dit qu'il n'allait pas tarder à le découvrir.
Ote !
Les cris des ignobles étaient devenus monstrueusement proches. Bientôt, il verrait le garçon et le bafouilleux en arrêt, et il chargerait. Ote les sentait approcher, pourtant le regard qu'il posa sur Jake était plutôt calme. Sur son Jake bien-aimé, pour qui il mourrait sur le champ s'il le fallait.
« Ote, tu peux changer de place avec moi ?»
Il se trouva que la réponse était oui. 8. Ote se leva en titubant, Ek dans les bras, vacillant d'avant en arrière, horrifié de constater combien la marge d'équilibre du garçon était restreinte. L'idée de marcher ainsi, même sur une courte distance, sur seulement deux pattes, était terriblement décourageante. Pourtant, il le faudrait bien, et immédiatement avec ça. C'était Egg qui le disait. Pour sa part, Jake sut qu'il devrait fermer ses yeux d'emprunt. Il se trouvait dans la tête d'Oté, pourtant il voyait toujours le tricératops. À présent, il voyait même un ptérodactyle parcourant l'air chaud au-dessus de la clairière, ses ailes de cuir déployées pour attraper les courants thermiques qui soufflaient des ventilateurs.
« Oté, il va falloir que tu fasses ça tout seul, et si on veut rester devant eux, c'est maintenant ou jamais. »«
Hack !»
répliqua Oté, et il tenta un pas en avant. Le corps du garçon se balança de droite à gauche, mettant à l'épreuve les limites de son propre équilibre. Le stupide corps à deux pattes seulement d'Eik bascula sur le côté. Oté essaya de rectifier le tir, mais ne fit qu'aggraver les choses, s'écroulant sur la droite et envoyant la tête poilue d'Eik cogner par terre. Oté tenta d'exprimer sa frustration par un aboiement. Ce qui sortit de la bouche d'Eik ne fut qu'un stupide son qui tenait presque du mot
« Aboie !
Bois !
Merde, aboie !»«
Je l'entends !» s'écria quelqu'un. « Courez ! Allez, maniez-vous le train pour une fois, bande de comptes bons à rien, avant que ce petit salopard atteigne la porte !»
Eik n'avait pas l'ouïe très fine, mais les murs carrelés amplifiaient les sons, et c'était une bonne chose. Oté entendait distinctement l'écho de leur course.
« Il faut que tu te relèves et que tu cours !»
essaya de hurler Jake, mais ce qui sortit tenait plus d'une phrase en forme d'aboiement confus.
« Hack ! Hack ! Lève ! Cours !»
Dans d'autres circonstances, tout ça lui aurait sans doute paru très drôle, mais pas là. Oté réussit à se relever en plaquant le dos d'Ake contre le mur et en poussant sur les jambes d'Ake. Il avait enfin trouvé les commandes du véhicule. Elles se trouvaient dans ce lieu qu'Ake appelait le Dogan, et elles étaient plutôt faciles à utiliser. À sa gauche, néanmoins, un couloir voûté conduisait dans une pièce immense, remplie de machines qui miroitaient. Oté savait que, s'il se rendait dans cette pièce, l'antichambre dans laquelle Ake conservait toutes ses merveilleuses pensées et toute sa réserve de mots, il s'y perdrait pour toujours. Heureusement, il n'eut pas à le faire. Tout ce dont il avait besoin se trouvait dans le Dogan. Pied gauche, en avant, et une pause. Pied droit, en avant, et une pause. Bien tenir cette chose qui ressemble à un bafou bafouilleux, mais qui est en réalité ton ami, et se servir de l'autre bras pour maintenir l'équilibre. Résister à la pulsion de tomber à quatre pattes et de ramper. Ses poursuivants le rattraperont s'il fait ça. Il ne sent plus leur odeur. Forcément, avec cette minuscule petite boule ridicule qu'Ake appelle une truffe, mais il en est absolument certain. De son côté, Jake les sentait distinctement. Il y en a au moins une douzaine, peut-être même plutôt 16. Leur corps était de parfaits moteurs de puanteur, et ils propulsaient leur arôme devant eux comme un nuage répugnant. Ils sentaient les asperges que l'un d'eux avait mangées au dîner. Ils sentaient aussi le parfum déviant du cancer qu'un autre développait, probablement au cerveau ou à la gorge. Puis il entendit de nouveau rugir le tricératops. La chose oiseau, croisant dans les airs au-dessus d'eux, lui répondit. Jake ferma les yeux, enfin les yeux d'Oté. Dans le noir, les déhanchements du bafouilleux contre lui étaient bien pires. Jake se prit à craindre, s'il devait supporter ça encore longtemps, de vomir bientôt tripes et boyaux. « Appelez-moi donc Bama le marin, calme mal de mer. »«
Vas-y, Oté, »
envoya-t-il en pensée.
« Aussi vite que tu peux, ne retombe pas, mais aussi vite que tu peux. »
9. Si Eddie avait été présent, il se serait sans doute remémoré Madame Miss Laberski de l'immeuble en haut de la rue. Madame Miss Laberski, en février, après une tempête de neige, quand le trottoir était gelé et qu'il ne l'avait pas encore salé. Mais verglas ou pas verglas, rien n'aurait pu l'empêcher d'aller chercher son petit morceau quotidien de viande ou de poisson au marché de Castle Avenue, ou d'aller à la messe le dimanche, car Madame Miss Laberski était de loin la catholique la plus fervente de tout Co-op City. Alors la voilà qui arrivait, ses grosses jambes tendues dans leur collant de contention rose bonbon, d'un bras serrant son sac à main contre sa gigantesque poitrine, de l'autre tentant de maintenir son équilibre, la tête baissée, cherchant des yeux les petits tas de cendres indiquant que des gardiens d'immeubles étaient déjà passés par là. Jésus-Marie, Mère de Dieu, béni soient ces saints hommes-là. Mais aussi les plaques vicieuses qu'il apprendrait en traître. Oups là! Faisant voler ses gros genoux roses, et elle se retrouverait sur le derrière, ou même sur le dos. On pouvait se briser la colonne vertébrale, comme ça. On pouvait se retrouver paralysé, comme la fille de cette pauvre Madame Bernstein, dans l'accident de voiture à Mamaroneck. Ça arrivait, ce genre de choses. Aussi ignorait-elle les sifflets des enfants, parmi lesquels on trouvait souvent Henry Dean et son petit frère Eddie. Et poursuivait son chemin, la tête baissée et le bras tendu, son solide petit sac à main noir de vieille dame serré contre son ventre, bien décidée, si elle devait voler les quatre fers en l'air, à protéger le contenu de son sac à tout prix. Elle s'aplatirait dessus comme un joueur de rugby sur le ballon après un essai. C'est ainsi que marchait ôté de l'entre-deux-mondes, dans le corps de Jake, le long du couloir qui, en tout cas pour lui, ressemblait plus ou moins à n'importe quel autre couloir. La seule différence à ses yeux, c'était les trois trous de chaque côté, avec de gros yeux en verre qui regardaient vers l'extérieur, des yeux qui produisaient un bourdonnement bas et constant. Dans ses bras, il tenait ce qui ressemblait à un bafouilleux qui fermait les yeux de toutes ses forces. S'il les avait ouverts, Jake aurait sans doute compris qu'il s'agissait d'appareils de projection. Ou bien il n'aurait rien vu du tout. Avançant à faible allure, Otte savait qu'il gagnait du terrain, mais il savait aussi qu'il valait mieux marcher lentement que tomber par terre. Les jambes bien écartées et traînant les pieds, tenant fermement Hake contre lui, comme Madame Miss Laberski son sac les jours de verglas. Ainsi passa-t-il devant les yeux de verre. Le bourdonnement s'affaiblit. Était-il assez loin? Il l'espérait. Marcher comme un humain était tout bonnement impossible, trop éprouvant pour les nerfs. De même que se trouver si près de toute la mécanique de pensée d'Hake. Il eut la pulsion de se retourner pour y jeter un œil. Tous ces magnifiques panneaux réfléchissant la lumière. Mais n'en fit rien. S'il regardait, il se retrouverait peut-être bien sous hypnose, ou pire. Il s'immobilisa. « Jake, regarde, là !» Jake tenta de répondre « OK » et c'est un aboiement qui sortit. Rigolo, pas vrai? Il ouvrit les yeux avec précaution et vit des murs carrelés des deux côtés. Il y avait de l'herbe et de minuscules pousses de fougères entre les carreaux. Pourtant, c'était bien de la céramique. C'était bien un couloir. Il regarda derrière lui et vit la clairière. Le tricératops les avait oubliés. Il se livrait à un combat à mort avec le Tyrannosaurus, scène qu'il se rappela clairement avoir vue dans Le Peuple des Abîmes. La fabuleuse Pépé avait observé la bataille, bien à l'abri dans les bras de César Romero, et au moment crucial où le Tyrannosaurus de bande dessinée avait refermé sa mâchoire fatale sur la tête du Tricératops, la fille avait enfoui le visage contre la poitrine virile de l'explorateur. « Otte !» aboya Jake. Mais aboyer ne suffisait pas, alors il passa en mode pensée.
« On rechange de place. »
Otte fut trop heureux de s'exécuter. Jamais il n'avait autant souhaité quelque chose. Mais avant qu'ils aient pu procéder à l'échange, leurs poursuivants les aperçurent.
Là !» s'exclama celui à l'accent de Boston, celui qui avait déclaré que le paternel avait fini en plat de résistance. « Là ! Les voilà ! Attrapez-les ! Abattez-les !» Et alors que Jake et Otey croisaient leurs esprits et réincorporaient leurs enveloppes respectives, les premières balles se mirent à cliqueter autour d'eux comme si quelqu'un claquait des doigts. 10. Le meneur de la bande lancé à leur trousse était un certain Flaherty. Des 17 créatures, il était le seul Hume. Tous les autres, sauf un, étaient des ignobles et des vampires. Le dernier était un Taïn avec la tête d'une hermine intelligente et une paire de jambes gigantesques et poilues jaillissant d'un bermuda. Au bout des jambes en question apparaissaient des pieds étroits terminés par une corne acérée. Un seul coup de pied de Lamla aurait découpé en deux un homme de bonne taille. Flaherty. Élevé à Boston depuis 20 ans au service du roi dans une tripotée de versions de New York de la fin du XXe siècle, avait réuni sa bande aussi vite que possible dans un véritable calvaire de peur et de fureur. Plus rien ne rentre au cochon. Voilà ce que Sayre avait dit à Mayman. Et ceux qui réussiraient quand même à entrer ne devaient sous aucun prétexte en ressortir. Et ça valait encore plus pour le pistolero et chacun des membres de son quatette. Ces petits plaisantins avaient depuis longtemps dépassé les bornes, pas besoin d'être dans les hautes sphères pour le comprendre. Mais à présent, Mayman, que ses rares amis appelaient le canari, était mort, et le gosse avait trouvé le moyen de leur échapper. Un gamin, nom de Dieu! Un putain de gamin! Mais comment était-il censé deviner que tous les deux, ils possédaient un totem aussi puissant que cette tortue? Si ce satané truc n'avait pas rebondi sous une des tables, peut-être bien qu'il les tiendrait encore en respect, tous. Flaherty savait que c'était la vérité. Mais ce qu'il savait aussi, c'est que jamais Sayre n'accepterait une excuse pareille. Et même... il ne donnerait pas à Flaherty l'ombre d'une chance de s'en servir. Non. Il serait mort bien avant ça, et tous les autres aussi. Étalé par terre, avec les insectes docteurs se repaissant de leur sang. Il était facile de dire que le gamin serait bloqué à la porte, qu'il ne connaîtrait pas, qu'il ne pourrait pas connaître, les mots de passe qu'il ouvrait. Mais Flaherty ne pouvait plus se fier à des idées pareilles, malgré l'envie qu'il en avait. Ils avançaient sans filet, et Flaherty se sentit submergé par une grande vague de soulagement en apercevant le gamin et son petit copain à fourrure à l'arrêt, un peu plus loin. Plusieurs des ignobles firent feu, mais les manquèrent. Flaherty n'en fut pas surpris. Entre eux et le gamin s'étirait une étendue de verdure, une putain de jungle en dessous de la ville, voilà à quoi ça ressemblait. Et il y avait même de la brume en train de se lever qui ne leur facilitait pas la tâche pour viser. Et ces dinosaures de bande dessinée complètement ridicules. L'un d'eux leva vers eux sa tête dégoulinante de sang et se mit à rugir, serrant contre sa cage thoracique en écaille ses pattes minuscules. « On dirait un dragon », se dit Flaherty. Et sous ses yeux, le dinosaure de dessin animé devint un dragon. Il grogna et lança une gerbe de feu qui enflamma plusieurs pieds de lierre et tout un pan de mousse. Pendant ce temps, le gamin s'était remis en route. Lamla, le Taïn à tête d'hermine, se fraya un chemin en tête et brandit un poing recouvert de fourrure à hauteur de son front. Flaherty retourna le salut avec impatience. Qu'est-ce que c'est que ça en bas, l'âme? Tu le sais? Flaherty lui-même n'était jamais descendu en dessous du cochon du Sud. Quand il se déplaçait pour affaire, c'était toujours entre les différents New York, ce qui veut dire qu'il utilisait ou bien la porte sur la 47e rue, entre la 1ère et la 2ème avenue, ou bien celle qui donnait dans un hangar désaffecté sur Bleecker Street. Sauf que dans certains mondes, le hangar devenait un immeuble jamais achevé de construire.
ou encore le sens interdit de la 94e. Cette dernière était la plupart du temps détraquée et bien sûr personne ne savait la réparer. Il existait d'autres portes dans la ville. New York regorgeait de portails vers d'autres houes et d'autres camps. Mais celles-là étaient les seules encore en état de marche. Avec celle vers Fédic, évidemment. Celle droit devant. « C'est un mirageur, » dit la chose Hermine. Sa voix rappelait un grondement humide qui n'avait rien d'humain. « Cette machine-là se balade et va chercher ce qu'on craint le plus, puis elle le rend réel. Seyr a dû la mettre en route quand lui et son tête sont passés, avec la gueuse à peau noire, pour brouiller sa piste, vous intuitez. » Flair t'y acquiesça. Un esprison, très intelligent. Mais est-ce qu'il était vraiment bon? Parce que ce maudit chiard avait réussi à passer, pas vrai? Ce que le gamin a vu va se transformer en nos peurs à nous, ajouta le Taïn. Ça marche à l'imagination. L'imagination. Flaherty s'empara de ce mot. Super. Quoi qu'ils voient quand ils seront en bas, dites-leur de l'ignorer. Il leva un bras pour donner le signal à ses hommes, très soulagé par ce que l'âme venait de lui dire. Parce qu'il leur fallait reprendre la chasse, et plus vite que ça. Seyr, ou Walter Odim, ce qui était encore pire, les tuerait probablement jusqu'au dernier s'il ne parvenait pas à arrêter ce babet morveux. Et Flaherty craignait réellement l'idée des dragons pour tout arranger. Depuis ce jour où son père lui avait lu une histoire de ce genre quand il était tout petit. Le Taïn l'arrêta avant qu'il ait pu donner le feu vert. « Qu'est-ce qu'il y a, l'âme ?» grogna Flaherty.
« Vous ne comprenez pas. Ce qui se trouve en bas est assez réel pour vous tuer, pour nous tuer tous. »
« Et qu'est-ce que tu vois, toi, alors ?» Ce n'était pas le moment de se montrer curieux, mais ça avait toujours été l'engeance de Connor Flaherty. L'âme-là baissa la tête.
« Je ne souhaite pas en parler, c'est plutôt moche. Le problème, Sai, c'est qu'on va tous mourir ici si on n'est pas prudent. Ce qui vous est arrivé ferait peut-être l'effet d'un infarctus ou d'une attaque à un type qui s'est fait charcuter. Mais ce sera ce que vous voyez en bas. » Quiconque croit que l'imagination ne peut tuer est un imbécile. »
À présent, tous les autres s'étaient réunis derrière le Taïn. Ils alternaient les regards vers l'âme-là et en direction de la clairière embrumée. Flaherty n'aimait pas ce qu'il lisait sur leur visage, pas du tout même. Descendre un ou deux des plus récalcitrants à se voiler la face rendrait peut-être aux autres leur enthousiasme, mais à quoi bon? Si l'âme-là disait vrai, ces maudits grands anciens, toujours à laisser traîner leurs jouets derrière eux, des jouets dangereux, comme ils lui compliquaient la vie, maudits soient-ils jusqu'au dernier. Alors comment fait-on pour passer? Gémit Flaherty. Et pendant qu'on y est, comment cette petite frappe a fait pour passer?
Pour la petite frappe, je n'en sais rien, répondit l'âme-là. Mais ce qu'on doit commencer par faire, nous, s'est tiré dans ses projecteurs.
Les projecteurs? Mais quels projecteurs, bordel? L'âme-là tendit le bras vers la clairière en contrebas, ou plutôt vers le couloir, si ce que disait ce monstre à la con était vrai.
Là, fit l'âme, je sais que vous ne les voyez pas, mais vous pouvez me croire sur parole, ils sont bien là, de chaque côté.
Flaherty observait avec une certaine fascination la jungle brumeuse de Jake se transformer sous ses yeux, pour devenir la grande forêt obscure, comme dans « Il y a bien longtemps », au temps où tout le monde vivait dans la grande forêt obscure et où personne ne vivait ailleurs. Un dragon vint tout saccager. Flaherty n'avait aucune idée de ce que l'âme-là ou le reste de ses hommes voyaient, mais sous ses yeux, le dragon, qui encore peu de temps auparavant était un tyrannosaurus, saccageait tout consciencieusement, mettant le feu aux arbres et battant la campagne en quête de petits garçons catholiques à dévorer.
« Je ne vois rien !» hurla-t-il au visage de Lamla. « Ce que je crois, c'est que tu as perdu ta putain de tête !»«
Je les ai vus éteints !» répondit calmement Lamla. « Et je crois me rappeler à peu près où ils se trouvent. Si vous me laissez prendre 4 hommes pour tirer de chaque côté, je pense qu'il ne nous faudra pas longtemps pour les détruire tous. »
Et qu'est-ce que Seir dira quand je lui apprendrai qu'on a bousillé son précieux esprison ? Aurait pu répliquer Flaherty. Qu'est-ce que Walter Odim dira, puisqu'on en parle ? Parce qu'on ne peut pas réparer ce qui est crâné, en tout cas pas des gars comme nous, qui savons faire du feu en frottant 2 bouts de bois l'un contre l'autre, mais pas beaucoup plus. Il aurait pu le dire, mais il n'en fit rien. Parce que attraper ce gosse avait plus d'importance que n'importe quel gadget antédiluvien créé par les grands anciens. Même un gadget aussi époustouflant que cet esprison-là. Et c'était Seir qui l'avait activé, pas vrai? Dites si fait. S'il fallait s'expliquer, Seir n'avait qu'à s'en charger. Que Seir fasse son mea culpa au grand ponte et jacasse jusqu'à ce qu'il le fasse taire. Pendant ce temps, ce bon dieu de Babé Morveux continuait de reconstituer la piste que Flaherty, qui se voyait déjà recevoir les honneurs pour s'être précipité si vaillamment dans la brèche, et ses hommes avaient quasiment réduit à néant. Si seulement l'un d'entre eux avait eu la chance de toucher le gamin, quand lui et son sac de fourrure de pote étaient en vue. On met ses désirs dans une main, on chie dans l'autre, histoire de voir laquelle des deux se remplit le plus vite. « Prends les meilleurs tireurs, » fit Flaherty avec son accent à la J.F. Kennedy, « qu'on en finisse. » Lamla désigna 3 ignobles et 1 des vampes, en plaça 2 de chaque côté et leur débita des instructions rapides dans une autre langue. Flaherty en déduisit que 2 d'entre eux étaient déjà descendus là-bas, et, comme l'âme, se rappelait à peu près où se situaient les projecteurs dans les murs. Pendant ce temps, le dragon de Flaherty, ou pour être plus précis, le dragon de son pas, continuait à tout saccager dans la profonde forêt sombre. La jungle, ayant complètement disparu, émettait le feu partout. Finalement, bien que cela parût une éternité à Flaherty, il ne fallut en réalité pas plus de 30 secondes. Les tireurs d'élite firent feu. Presque instantanément, forêt et dragon s'évanouirent sous les yeux de Flaherty, comme des séquences d'un film surexposé.
« C'est l'un de ceux-là, les louchons !» brailla Lamla de sa voix qui virait au cri de mouton dès qu'il montait d'un ton. « videz vos chargeurs pour l'amour de vos pères !»
La moitié de cette petite bande n'en a sans doute jamais eu, se dit Flaherty avec une certaine morosité. Puis il entendit l'éclat distinct du verre qui se brise et le dragon s'immobilisa en plein mouvement, des volutes de flammes et de fumée sortant de sa bouche et de ses narines. De même que des ouïes sur les côtés de sa gorge blindée. Encouragés par leurs résultats, les tireurs d'élite accélérèrent la cadence, et quelques secondes plus tard, la clairière et le dragon pétrifié s'évanouirent. À leur place, ne subsistèrent que des couloirs carrelés, et sur la poussière du sol, les traces de ceux qui les avaient parcourus en dernier. De chaque côté apparaissaient les projecteurs énucléés. « Très bien !» s'exclama Flaherty après avoir adressé à Lamla un signe d'approbation. « Maintenant, on se lance aux trousses du gosse et au pas de course, et on va l'attraper, et on va ramener sa tête au bout d'une pique. Vous êtes avec moi ?» Ils rugirent en un cœur féroce, Lamla avec plus de véhémence encore que les autres. Les yeux brillants d'une sinistre lueur jaune-orangée qui rappelait le souffle du dragon. « Très bien !» exulta Flaherty en se lançant dans un air que n'importe quel instructeur des Marines aurait reconnu. « Peu importe où vous fuirez !»« Peu importe où vous fuirez !» aboyèrent-ils en chœur en se mettant à courir, à quatre de front, au travers de ce qui avait été la jungle de Jake. Sous leurs pieds crissait le verre brisé. « On vous ramènera sans tarder! On vous ramènera sans tarder !» Vous pouvez courir à l'œil ou Caïn. Vous pouvez courir à l'œil ou Caïn. On bouffera vos couilles en gratin. Ils répétèrent tous en chœur et Flaherty accéléra encore un peu la cadence. 11. Jake les entendit de nouveau approcher, comme à Comala. Il les entendit se jurer de lui bouffer les couilles en gratin.
Allez-y, ramenez-la,
se dit-il. Mais il fit quand même de son mieux pour courir plus vite. Il s'inquiéta de constater qu'il n'y arrivait pas. Le tour de passe-passe mental avec Otel avait tout de même un petit peu fatigué. Non. Roland lui avait enseigné que se leurrer soi-même n'était autre que de l'orgueil camouflé et qu'il ne fallait pas s'autoriser ce genre de caprice. Jake avait fait de son mieux pour tenir compte de ce conseil, en conséquence de quoi il dut bien admettre que la fatigue ne rendait pas bien compte de sa situation. Ce point de côté s'était étendu, il lui était poussé des crocs qui remontaient jusque sous son aisselle. Il savait qu'il avait gagné du terrain sur ses poursuivants. Il savait aussi, à les entendre brailler en cadence, qu'ils étaient en train de rattraper leur retard. Bientôt, ils se remettraient à tirer sur Otey et lui, et comme des types en pleine course tiraient souvent comme de la merde, on pouvait toujours avoir un coup de chance. À présent, ils distinguaient quelque chose devant eux, qui bouchait le couloir. Tout en s'approchant, Jake prit le temps de se demander ce qu'il ferait si Susanna ne se trouvait pas de l'autre côté, ou bien si elle s'y trouvait, mais ne voyait pas de moyen de l'aider. Eh bien, Otey et lui se défendraient, voilà tout. Aucune couverture, pas moyen de rejouer la scène du col des Thermopyles ce coup-ci. Mais il lancerait le plat et ferait tomber quelques têtes avant qu'il vienne à bout de lui. Si c'était nécessaire, bien entendu. Peut-être qu'il n'aurait pas à le faire. Jake courut bruyamment en direction de la porte, l'air lui brûlant la gorge, presque littéralement, tout en se disant «
C'est aussi bien. De toute façon, je n'aurais pas pu courir encore très longtemps. »
Otey y parvint le premier. Il posa les pattes avant contre le bois fantôme et leva la tête, comme s'il déchiffrait les mots imprimés sur le panneau et le message qui clignotait en dessous. Puis son regard revint sur Jake, qui arrivait pantelant, se tenant l'aisselle d'une main, les orizards escapés s'entrechoquant dans leur sac dans un brouhaha métallique. North Central Positronics, LTD, New York, FEDIC, sécurité maximale. Code verbal d'entrée exigé. 9, dernière suppléante. Il essaya de faire tourner le bouton, mais ce ne fut là qu'une formalité. Lorsque le métal glacé refusa de bouger entre ses doigts, il ne prit pas la peine d'essayer une nouvelle fois et se mit à frapper des deux mains sur la porte.
« Susanna, si tu es là, laisse-moi entrer !»«
Pas pour tout l'or des foutus Incas !» entendit-il son père répondre, puis sa mère sur un ton beaucoup plus grave, comme si elle savait que raconter des histoires, c'était du sérieux.
« J'ai entendu une mouche bourdonner au moment de ma mort. »
Rien ne lui parvint de l'autre côté de la porte. Mais derrière lui, les voix de la troupe du roi cramoisi se rapprochaient sensiblement.
« Susanna !»
beugla-t-il. Ne recevant toujours pas de réponse, il fit volte-face, plaqua le dos contre la porte. N'avait-il pas toujours su que ça se terminerait ainsi ? Adossé contre une porte verrouillée, et saisit un orizza dans chaque main. Otey se tenait entre ses pieds, la fourrure hérissée sur l'échine et la douce peau de velours de sa truffe retroussée pour découvrir ses crocs. Jake croisa les bras, prenant la pose de la charge,
Allez, venez donc, bande de salauds, pour Gilead et l'aîné, pour Roland, fils de Stephen, pour moi et Othé. »
Au début, il était trop concentré sur ce qu'il avait à faire pour bien mourir, en emmenant au moins l'un d'eux avec lui, le type. Il lui avait appris que le paternel avait fini en plat de résistance, aurait été son morceau de choix. Et puis, s'il le pouvait, pour s'apercevoir que la voix qu'il avait entendue provenait de derrière la porte et non pas de son propre esprit.
« Jake, c'est vraiment toi, Trésor ?»
Il écarquilla les yeux. « Oh, pitié, faites que ce ne soit pas une ruse !» Parce que si c'en était une, ce serait probablement la dernière que Jake verrait.
Susanna, ils arrivent. Est-ce que tu sais comment?
Oui. Ça doit toujours être vol, tu m'entends? Si Nigel dit vrai, le mot de passe devrait être vol.
Jake ne lui donna pas l'occasion de répéter. Il les voyait à présent débouler vers lui en mettant la gomme. Certains d'entre eux agitaient des armes et tiraient déjà en l'air.
« Vol !»
hurla-t-il à plein poumon.
« Vol pour la tour ! Ouvre-toi ! Ouvre-toi, saloperie !»
Contre son dos, la porte entre New York et Fédic s'ouvrit avec un cliquetis. En tête du groupe de tueurs, Flaherty vit toute la scène, éructa le juron le plus ignoble de tout son répertoire et tira une seule et unique balle. Il était bon tireur. Et il mit dans ce coup-là toute la force de sa volonté, qui était loin d'être négligeable, afin de guider le projectile. Il aurait sans aucun doute transpercé le front de Jake au-dessus de l'œil gauche, lui vrillant le cerveau et mettant un terme à sa vie, si une main puissante aux doigts bruns n'avait pas saisi le garçon par le col au même moment, le tirant en arrière sur fond de sifflements stridents d'ascenseur. Ce sifflement qui résonne sans interruption entre les différents niveaux de la tour sombre. La balle bourdonna près de son oreille, mais sans y entrer. Othé suivit Jake, répétant le nom de son ami dans un aboiement perçant.
« Hack ! Hack ! Hack ! Hack !»
Et la porte se referma violemment derrière eux. Flaherty l'atteignit 20 secondes plus tard et tambourina dessus jusqu'à s'en faire saigner les poings. Lorsque Lamla essaya de l'en empêcher, Flaherty le repoussa avec une telle férocité que le taïn s'étala de tout son long. Mais il n'y avait plus rien à faire. Tambouriner ne le mena nulle part. Rien ne le mena plus nulle part. À la toute dernière minute, le garçon et le bafouilleux leur avaient faussé compagnie. Et le temps d'un petit sursis, le cœur du cathète de Roland demeura uni.